quartier de vie. Une émission de résonance sonore proposée par Agnès Gontier. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du hangar à la Sépière à Toulouse. De nombreux événements culturels, des débats, des rencontres y sont régulièrement organisés comme le cabaret sur le côté. Le lieu a une histoire singulière, né au cœur d'une usine désaffectée. Rencontre avec des bénévoles qui gèrent le lieu, ils s'appellent Ernesto, Nico, Nicole, Jean-Pierre et d'autres encore. Ils ont en commun l'énergie et l'enthousiasme de faire vivre ce lieu qu'on appelle le hangar.
Mais c'est un peu un cabaret un peu spécial parce qu'on a décidé qu'il fallait quand même que des fois on ait une mission de responsabilité. Et donc, là on a décidé que ce cabaret, eh bien on allait le faire en soutien pour les gens qui habitent, qui sont à 26 000, vous voyez, un peu au-dessus de Nice, dans une espèce de vieux pays là.
Ernesto. Le hangar, c'est un lieu qui a une histoire, qu'on s'est battu pour l'avoir, qu'on a beaucoup investi, beaucoup travaillé, qu'on a construit. Et ce qu'on a construit, c'est un lieu de rencontre, un lieu de liberté, un lieu où on peut faire des choses que sûrement on peut faire nulle part ailleurs, ou alors dans des lieux qui ressemblent au hangar. C'est ça qui est notre moteur, finalement, qui nous donne l'énergie, savoir qu'on est en train de faire quelque chose. Qu'il n'y a que des gens qui sont un peu passionnés. Ce n'est pas les pouvoirs publics qui vont faire un lieu comme ça, ça ne les intéresse pas. Ils veulent tout contrôler. Il y a besoin toujours de lieux comme celui-ci, de rencontres, d'expressions, de diffusion.
Alors l'ambiance là du hangar, c'est comment ?
Il y a une super ambiance, assez familiale, je dirais, parce que tous les gens ils se connaissent, c'est un peu une grande famille. Il y a beaucoup de gens qui se connaissent, il y a un noyau dur qui gère l'organisation du lieu, le hangar. Et après, une association qui gère aussi la soirée cabaret sur le côté. Mais c'est super ambiance.
C'est-à-dire,
après Monaco, vous voyez, bien.
Oui, et alors, et après Monaco, où tu vas? Tu montes, c'est où?
Ouais, écoutez,
non, parce que tu parles, truc.
Pardon, vous voulez vous plaindre, c'est ça? Vous voulez vous plaindre?
Je m'appelle Nicole et je suis l'ancienne de l'imprimerie 34. Maintenant, je m'occupe d'une association aussi, l'AEL, Association pour l'art et l'expression libre, qui est la suite un peu de l'imprimerie 34.
Alors, l'imprimerie 34, c'est un petit peu ce qui a fait que le hangar est né. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les débuts du hangar ?
Oui, alors l'imprimerie 34 était une coopérative donc, d'imprimerie, avec une vingtaine de personnes. Et à côté du local où on travaillait à l'imprimerie 34, il y avait un atelier de confection et un beau matin on est arrivé et il y avait le hangar était fermé et toutes les ouvrières devant la porte et en fait c'était le patron qui était parti en Algérie avec toutes les machines et qui avait planté toutes les ouvrières qui étaient vraiment désolées. Donc l'atelier restait vide et puis tout est devenu une zone non occupée quoi. Donc c'est resté à l'abandon. Et du coup, nous, on l'a réutilisé. On a nettoyé autour parce que c'était dégueulasse. On a commencé à y faire un peu d'activité. Il y a des jeunes qui sont venus, qui ont fait des étudiants des Beaux-Arts, qui ont fait des décors. On y a fait des rencontres voilà, pour l'imprimerie ou pour les voisins, un peu de tout. C'était super. Ça vivait.
Alors moi, j'aime bien Eric Ciotti. Tu connais Eric Ciotti? Voilà. Moi, je l'adore. Je lui vois un culte. Il m'a placé le petit conseil départemental. Moi, du coup, franchement, Ciotti me dit, je dis, là, il y a un problème. Il y a plein de randonneurs mal équipés. Ils marchent, ils n'ont pas les tongs, ils sont tout rouges. Que je fais, moi? Il me dit, tu les regardes pas.
Et puis, un beau jour, on nous a dit que ça allait être vendu. Aux enchères. Donc on a dit, bon, ben tiens, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on va quand même essayer, on va aller voir. Donc on est allé aux enchères, là, avec un copain. Mais bien sûr, on avait un montant à ne pas dépasser. Et bien entendu, quelqu'un est venu au-dessus de nous. Et c'était les HLM des chalets. Donc les chalets ont racheté toute cette parcelle dans laquelle il y avait ce local. Mais on a continué à s'en servir, comme on faisait. Et un beau jour, on avait marqué dessus... avis de démolition. ça va être démoli. Donc, on ne voulait absolument pas que ce soit démoli. Et on a commencé à essayer de discuter avec les chalets, les HLM. Mais c'était très difficile. Eux, ils voulaient faire des logements sociaux sur toute la parcelle. Et donc, on s'est bagarré en disant que nous, on l'utilisait, que c'était un lieu collectif et qu'on voulait continuer à pouvoir y vivre et à y faire des actions.
Moi, j'ai pas pu, je suis arrivée, le petit, il avait les tongs avec le triangle comme ça. J'ai dit, Eric Ciotti, il m'a dit, tu ne le regardes pas, ils nous ont envoyé les militaires pour nous dire que tu as des terroristes islamistes et tout. Ils avaient le petit Jésus tatoué ici. Les islamistes qui arrivent.
Pourquoi justement ce lieu est devenu emblématique et pourquoi il fallait absolument pas qu'il soit détruit?
Mais parce qu'il n'y avait rien dans le quartier et que c'était quand même un lieu de rencontre où on pouvait s'épanouir et voilà. Donc il s'est passé en justice, ça a été très compliqué. D'abord ils ont gagné qu'ils allaient pouvoir démolir, puis nous on a fait beaucoup de battages, des conférences de presse pour expliquer la situation. Les voisins étaient d'accord avec nous, sont venus nous soutenir et finalement on a trouvé un mode de règlement, disons, de la situation. Les chalets ont accepté de couper la parcelle en deux, de construire un logement social au lieu de deux et de nous laisser la parcelle de devant pour qu'on y construise ce qu'on voulait, le local qu'on voulait, mais ils démolissaient bien sûr l'ancien, et pour qu'on construise ce qu'on voulait, et quand ce serait construit, on aurait un bail emphytéotique de 50 ans. Voilà, donc c'est ce qui a été fait.
La soirée cabaret, ça se passe comment? Comment c'est organisé?
Donc c'est une fois par mois, l'association organise une soirée cabaret, donc une soirée avec différents petits numéros, 5-10 minutes qui succèdent avec une entracte. On accueille surtout des numéros, on va dire, du clown, la musique, un peu de théâtre, des arts, des arts du spectacle, mais de toute façon, il faut que les numéros soient assez courts. Voilà.
L'ambiance du hangar ici, c'est comment?
L'ambiance du hangar, c'est super. Très, très amical, très bienveillant et très ouvert. C'est un public formidable pour les artistes parce que le public est très, très porteur, très réactif.
Quand vous vous êtes dit, oulala, on va construire le hangar, qu'est-ce qui vous est passé par la tête?
Eh bien, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, peut-être une halle, ou peut-être un hangar fermé, ou une salle. Enfin, on a beaucoup cherché quoi faire. Hein. Et on a. Bon.
Et de se dire que vous allez le faire vous-même, ça ne vous a pas fait peur un petit peu d'aller dans la construction, que vous n'avez peut-être jamais construit quelque chose?
Ben non, pas vraiment. Ça, on avait déjà fait ça ailleurs, donc bon. Puis...
Non, de toute façon, on n'avait pas tellement le choix. Non, on n'a pas eu tellement peur, je pense pas. Je ne me rappelle pas avoir eu peur, moi. T'as eu peur, toi?
Non, il y a un copain qui savait bien manier la pelle, qui est venu, qui a commencé les fondations. Mais d'abord, ce qui était le plus compliqué pour nous, c'était de faire le plan et d'être un peu dans les normes. Bien sûr, le fric, ça, on n'avait pas de fric. Donc,
Comment vous avez fait alors pour commencer à acheter les matériaux sans fric?
Mais on a fait appel aux copains, à un peu tout le monde. Ensuite, on a essayé de demander des subventions, mais ça, c'est hyper compliqué. On a eu notre première sub de la mairie, mais c'était de l'ordre de 30 000 euros, je crois. Ensuite, 15 000 euros de la région. Enfin, globalement, en 5 ou 6 ans, je crois qu'on a eu 122 000 euros de sub, hein, c'est tout. Et on a fait un local qui en vaut, je ne sais pas combien, enfin bon, mais oui.
Combien à peu près vous chiffrez, en fait?
On l'a fait pour 200 000 euros, à peu près. Et le crédit qu'on a fait, on a fait un crédit à 30 000. On l'a fait pour 200 000 euros, alors que l'archi le chiffrait à 2 millions. La différence, c'est la main d'œuvre et la récup, on va dire.
Et alors, du coup, ça a duré longtemps, cette construction?
Ben, pas tant. Moi et d'autres, on voulait pas que ça dure longtemps. On aurait pu le faire mieux, on aurait pu le faire en ossature bois. On voulait le faire à un moment, on avait un projet en paille. Hein. Mais bon, on s'est dit que... Enfin, moi, j'avais pas envie de relancer la salle 30 ans plus tard, quoi. On venait de perdre une salle qui fonctionnait. Et donc, il fallait récupérer l'usage assez vite, quoi. Si c'était pour attendre 30 ans pour jouer à la belote, on n'avait pas besoin de ça, quoi. Mais on s'est dit, on fait un hangar en ferraille, comme on monte un supermarché, et ça va vite. Et au moins, on fait de la déco et on branche la musique et on peut s'amuser, quoi. Parce que sinon, sinon en fait, le projet, c'est un chantier, quoi.
Je vous le refais. À ma droite, une bouteille pleine, contenant un liquide ambré. À ma gauche, un verre transparent. Je vais prendre le liquide ambré contenu dans la bouteille pleine à ma droite et je vais le verser dans le verre transparent vide à ma gauche et je vais le remplir. Et je vais le faire
disparaître.
Attention.
Et du coup, la philosophie du cabaret, c'est quoi ?
Alors, la philosophie du cabaret, c'est en fait qu'on puisse venir tenter des choses ici sur scène. C'est parti plutôt de gens qui faisaient du clown, donc c'est plutôt ciblé clown, mais c'est ouvert à d'autres trucs aussi. Et ouais, l'idée c'est de pouvoir soit montrer un petit bout de spectacle, soit essayer un petit numéro qu'on a concocté pour ça. C'est essayer devant le public. Donc la règle c'est chacun fait 10 minutes maximum. Donc soit on a un petit spectacle et on le réduit en 10 minutes, soit on propose un numéro de 10 minutes. Et puis voilà, on s'essaye devant le public, quoi.
Et alors, le hangar, vous en pensez quoi du lieu ?
Bah, le hangar, du coup, c'est une belle rencontre, parce que c'est des chouettes gens qui gèrent ça. Que c'est un endroit qui accueille plein d'assos différentes, et du coup, c'est vachement riche. Et c'est un endroit qui porte beaucoup. C'est un chouette lieu.
Et je vais me remplir et je vais disparaître. Attention, il y a un truc.
Les activités phares du hangar aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ?
Nous avons des activités diverses, donc une fois par mois il y a du ciné-bouffe. Alors le ciné-bouffe, c'est projeter donc un film avec un petit réalisateur qui vient présenter son film. Et donc ciné-bouffe parce que nous faisons en même temps un repas. Et donc pour une modique somme de 5 euros, on a donc le repas, le cinéma et le débat. Une autre activité, le cabaret, qui est une fois par mois organisé par une association qui aide les artistes à présenter donc leurs numéros. Et donc la salle est bourrée, c'est-à-dire que des fois on ne peut pas rentrer dans la salle tellement il y a de monde. Et une autre activité liée au bar, qui cette année a pas mal marché aussi, c'est en collaboration avec un partenaire, Racaille. Racaille, donc Rassemblement Associatif Culturel Artistique Intergénérationnel pour la Liberté, la Laïcité et l'Émancipation. Et donc, on a eu l'idée de se dire que ras-le-bol de voir les jeunes mal boire. Donc on a décidé d'organiser des ateliers d'œnologie pour leur apprendre à boire le vin de la meilleure des façons, c'est-à-dire en le dégustant. Et pour pouvoir organiser cela donc, une fois par mois environ, on s'est associé avec les étudiants de l'ENSAT qui font des études d'œnologie. Et donc les étudiants, ça leur permet de parler de leur métier et de parler en public de cette matière. Et ça permet aux jeunes donc d'apprendre correctement à boire du vin. Des événements familiaux, festifs ou autres. Et puis après, les gens du quartier aussi sont dans des associations, sont engagés. Et donc le hangar est là pour leur permettre de s'exprimer.
Donc c'est pas qu'un lieu de spectacle et d'événements, c'est aussi un lieu mis à disposition pour les gens du quartier.
Oui, bon, disons que nous essayons quand même d'être ouverts au maximum du quartier, parce qu'une salle comme ça ne peut vivre que si vraiment il y a une bonne entente avec les gens du quartier aussi. Et puis n'oublions pas que nous avons créé cette salle justement pour faire vivre le quartier dans un lieu qui était où cela manquait cruellement de salles. C'est le projet qui importe, c'est-à-dire on vient nous présenter des projets et après, à partir de là, nous décidons de ce qu'il y a à faire. Par exemple, une personne qui est venue la semaine dernière pour le, pour Racaille pour boire un coup, donc avec Racaille. S'est retrouvée à regarder la salle. C'était après, elle est du quartier, elle n'était jamais venue. Elle vient par le biais de l'atelier d'œnologie. Elle a une association qui travaille donc sur le cinéma et avec les femmes africaines. Elle doit venir nous rencontrer un vendredi justement pour essayer de voir comment organiser des séances de cinéma liées donc au sujet des femmes en Afrique pour faire des discussions dans le quartier.
Tu es fier de, en fait, de d'avoir construit le hangar avec toutes les autres personnes ici?
Oui, complètement, complètement. Je suis fier de cette expérience qui est une expérience collective. Encore, chacun de nous, au moins moi tout seul, je sais que j'aurais pas pu faire quelque chose de, enfin, comme ça. Enfin, ne serait-ce que la partie qu'une infime partie de ça, c'est des projets qu'on construit que de façon collective. Et il faut vraiment parfois se battre contre des moulins à vent. Et ça, on peut le faire qu'en groupe, en fait.
Je ne sais pas, c'est quand même un projet où, comme vous le dites, il y a plusieurs associations, il y a des gens qui viennent faire des propositions. Vous avez mis aussi du vôtre, en fait, pour la construction, pour les batailles juridiques. Personnellement, oui, qu'est-ce que ça vous apporte, personnellement?
Ben, c'est un lieu de rencontre qui permet de s'épanouir. Nous, on fait aussi, ça, il n'en a pas parlé, des rencontres sur divers sujets. Par exemple, avant-hier, c'était sur les OGM, les nouveaux OGM qui ne sont pas connus. Il peut y avoir ça peut être sur les prisons, ça peut être, enfin, bon. Et ensuite, il y a aussi des résidences pour des répétitions de théâtre, des choses comme ça. Quelquefois avec le lycée des Arènes, qui est pas loin. La fac du Mirail aussi. Ils viennent y faire des stages, voilà. Que ça vit, et c'est l'essentiel.
Quartier de vie. Une émission de Résonance Sonore. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.